Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard, mais la première intervenante vient de nous prévenir qu'elle ne pourrait pas être malheureusement parmi les nôtres ce matin. Donc je vous propose que nous commencions ce groupe croisé, genre et Amérique latine et Caraïbes. Donc je suis ravie de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui hein, et je remercie tout particulièrement les participantes en leur qualité respective et panélistes que nous citerons et au fur et à mesure. Et c'est toujours un plaisir de retrouver ma collègue Céline Papin et d'organiser ensemble cet atelier croisé. Le groupe Genre aime beaucoup pouvoir faire ces ateliers croisés. Nous l'avions déjà fait avec la dynamique Sahel par exemple et avec la dynamique Climat. Ce qui est essentiel parce que ces sujets-là, ils sont transversaux. Et chaque zone géographique le vit différemment. Et nous devons en témoigner. L'année 2025, c'est une année anniversaire de la déclaration de Beijing. Une année où les pays du monde entier ont pris des engagements en matière des droits des femmes. Et cette année, c'était donc la restitution de ces 30 années de travaux. C'est également l'année croisée France-Brésil. Mais c'est aussi, à la fin de l'année, l'année de la COP qui se tiendra à Belém au mois de novembre. Donc une année importante à la fois pour les questions de genre et pour... la dynamique Amérique latine. Aujourd'hui, c'est également l'opportunité de faire un état des lieux et de mettre en visibilité les actions inspirantes de ces deux thématiques qui aujourd'hui se croisent. Et nous allons avoir des interventions de grande qualité aujourd'hui pour propulser un peu plus loin ces questions et bien sûr avoir des témoignages toujours de nos partenaires à l'étranger, puisque dans les échanges de bonnes pratiques, c'est toujours extrêmement important de savoir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer mutuellement. Sur l'égalité des genres à l'échelle mondiale, la situation est absolument préoccupante. Un récent rapport 2024 de l'ONU, d'ONU Femmes nous rappelle que les droits des femmes, l'égalité de genre est en recul dans un pays sur quatre. La situation est bien sûr aggravée par le double phénomène de la montée des extrémismes et des mouvements anti-droits, ainsi que la baisse mondiale des fonds d'aide publique au développement, et bien sûr... Tout cela a un impact extrêmement fort et démesuré sur les filles, les femmes et les minorités de genre. Je tiens à rappeler aujourd'hui que les baisses de ces aides représentent une menace pour 80 à 90% des associations féministes dans le monde entier qui se battent pour les droits des femmes et pour l'accès aux droits et à la liberté. Les budgets, bien sûr, de l'ADP... Oui, bien sûr. L'APD, trop d'acronymes. Donc le budget français de l'APD n'est pas épargné, bien sûr, par les récents sommets. Et nous avons récemment appris donc, à la conférence de Séville que le financement qui se clôture n'auront pas apporté de réponse à la hauteur des enjeux que nous ne cessons, nous, collectivités, de faire remonter, sur lesquels nous ne cessons d'alerter à toutes les échelles possibles, parce que malheureusement, ça impacte énormément notre pouvoir d'action au local. Pour autant, le désespoir et l'inaction ne sont pas des options pour quiconque ici dans cette pièce. Et certains signaux sont positifs, il est vraiment nécessaire de le dire et de le porter fort. En Amérique latine, nous avons deux exemples du même rapport d'ONU Femmes. Le premier, donc, qui stipule que 9 pays ont adopté une législation relative à la lutte contre les violences de genre en politique, mais aussi en matière de lutte contre les violences faites aux femmes en politique. Et au Guatemala, il a été doublé tout ce qui est fonds publics destinés aux victimes de violences basées sur le genre. Donc des pratiques qui ne manqueront pas de nous inspirer ici en Europe et notamment en France. La France, quant à elle, s'est dotée d'une stratégie consolidée et ambitieuse en matière de diplomatie féministe. Et elle accueillera en octobre prochain la 4e conférence internationale du groupe des politiques étrangères féministes, dont font notamment partie le Mexique et le Chili. Et enfin, Cités Unies France se tiendra aux côtés de ces pays et de la société civile à cette occasion pour faire corps et pour tenir les responsables politiques à leurs engagements. Sans attendre, ce groupe croisé témoigne de l'engagement de CUF et de ses collectivités membres en France et de ses collectivités amies à l'international à renforcer le plaidoyer international anti-backlash et à faire vivre la coopération et la solidarité internationale face à une internationale conservatrice organisée et extrêmement bien financée. L'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, est un droit fondamental, une condition préalable au développement durable. Et je rappelle que les ODD ont été une initiative des pays latino-américains. Enfin, cet atelier va nous exposer des exemples pragmatiques, concrets, pour faire vivre ce principe dans nos coopérations. Et donc, je remercie une nouvelle fois les intervenantes pour leurs éclairages. Je cède maintenant la parole à Céline Papin, présidente de la Dynamique Amérique latine et Caraïbes.
Merci beaucoup, Élise. Donc, effectivement, en tant que présidente de la Dynamique Amérique latine Caraïbes, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir proposer cet atelier croisé parce que, précisément, c'est une thématique qui est particulièrement intéressante sur ce continent. Nous avons pu réaliser l'an dernier un répertoire des coopérations décentralisées France-Amérique latine-Caraïbes. Et à l'occasion de ce travail, ce que nous avons pu constater, c'est que malgré une diversité assez importante des partenariats existants, la thématique genre n'était pas nécessairement la thématique la plus travaillée dans le cadre de nos coopérations avec cette partie du monde. Et ce, alors même, alors tu as commencé effectivement à évoquer un certain nombre d'enjeux et nous y reviendrons un petit peu plus précisément au cours des interventions, alors même que c'est une thématique qui est particulièrement pertinente et intéressante à travailler dans nos collaborations avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, ce à double titre. Tout d'abord parce que, évidemment, ce continent n'est pas épargné, et j'ai envie de dire, est même particulièrement marqué par un contexte de violence, notamment contre les femmes, et ce, encore plus depuis la crise du Covid-19 qui est venue fragiliser des sociétés. On a pu le constater moi-même, par exemple, dans le cadre de notre partenariat de la ville de Bordeaux avec Lima. Nous avons pu constater vraiment une augmentation très forte des violences intrafamiliales et des violences exercées contre les femmes. Également, une précarisation accrue. La question de l'autonomisation économique des femmes, on y reviendra. C'est un sujet majeur sur ces différents territoires. Mais en même temps, parallèlement, c'est aussi une partie du monde qui a été particulièrement en avance sur un cadre normatif. On a un certain nombre de pays qui sont particulièrement moteurs dans une dynamique de droits acquis pour les femmes et une plus grande égalité, qui se traduit parfois un peu plus difficilement, par contre, dans les faits. Et aussi, on a une mobilisation très forte, notamment en politique. On le constate dans les différents réseaux dans lesquels nous participons. Les élus locaux, on a d'ailleurs à notre table et je l'accueille avec un grand plaisir, une maire de Colombie qui nous parlera probablement aussi de cet enjeu de la représentation politique des femmes au niveau local dans son pays. On a un certain nombre de femmes politiques très fortement engagées. Je pense aux chiliennes, je pense aux colombiennes, je pense aux mexicaines qu'on retrouve dans les différents réseaux et qui portent avec force ces questions d'égalité, qui sont vraiment les leaders sur ces différents réseaux, comme CGLU par exemple, sur ces questions. Donc c'est vraiment un enjeu important. Et aussi l'autre élément qu'elle porte avec force, c'est la question de la prise en compte du care, de la prise en compte de cette nécessité d'accorder une véritable reconnaissance de ce travail souvent invisibilisé et en tout cas pas du tout valorisé économiquement et qui repose en très grande majorité sur les femmes. Alors, c'est le cas en Amérique latine, mais pas que, encore une fois. Mais cette dynamique de reconnaissance de l'économie du care, elle est principalement portée par les femmes d'Amérique latine. Et donc, c'est aussi une force motrice sur laquelle on peut s'appuyer pour travailler dans le cadre de nos coopérations. Donc c'est pourquoi on a vraiment souhaité mettre ce focus sur cette question à travers cet atelier, toujours dans l'objectif, et vous le savez, c'est l'objectif de la dynamique Amérique latine-Caraïbes, c'est aussi de peut-être inciter davantage de collectivités à regarder du côté outre-Atlantique pour y envisager des coopérations dans lesquelles, en plus, la réciprocité est tout à fait intéressante à travailler. On peut vraiment s'inspirer mutuellement de pratiques innovantes. Donc j'espère que les différents éclairages que nous aurons ce matin inciteront certains de mes collègues à envisager des partenariats. Et à cet égard, puisque la Colombie est à l'honneur aussi de ces rencontres, je vous signale la présence d'une forte délégation de plusieurs maires de villes intermédiaires colombiennes qui sont très désireuses de pouvoir initier des échanges avec des villes et des territoires français. Et je cède la parole. Je présente du coup la prochaine intervente ou je te laisse
le faire ? Alors, je pense simplement que tu vas nous présenter quand même la personne qui n'est pas présente. Parce que son intervention était vraiment édifiante, surtout pour introduire cette table ronde. Et on va vous la présenter quand même parce que nous ferons en sorte, dans les supports de compte-rendu de ce groupe, d'inclure ces travaux ou en tout cas d'avoir une note pour que vous puissiez quand même découvrir ce sujet qui était fort passionnant.
Oui, tu as raison. Oui, la première intervenante, qui était donc Maria José Aguilar Murillo, donc elle devait nous dresser un panorama, un global de cette question sur la région Amérique latine-Caraïbe, ce qui aussi nous permettait de voir la diversité des contextes, parce que c'est vrai que ce que je n'ai pas aussi indiqué, bien évidemment, c'est une très grande aire géographique dans laquelle on a aussi des contrastes, évidemment. On a des dynamiques plus ou moins marquées, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Et donc, elle est chargée de déploiement institutionnel et consultante genre et climat à Kinomé. Kinomé, c'est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui travaille principalement en Afrique, mais qui développe des projets aussi en Amérique latine. Et elle a mené notamment des travaux de recherche au Costa Rica et en Colombie. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on vous enverra dans la suite, effectivement, de l'atelier, peut-être sa présentation ou ses éléments, pour aussi donner cet éclairage-là, qui est important, je pense, pour la suite. Mais nous avons ensuite d'autres excellentes intervenantes, avec un panel 100% féminin, en plus, vous l'avez noté. Donc, je te laisse présenter la prochaine intervenante.
Nous allons céder la parole à Marie-Pierre Bourzey, directrice du département géographique Amérique latine et donc de l'Agence française du développement.
Merci. Bonjour à tous, messieurs et mesdames les maires et élus locaux. Je suis ravie d'être là, d'autant plus que c'est un retour pour moi à mes premières amours de coopération décentralisée. J'ai commencé ma carrière à la ville de Paris aux relations internationales et puis pendant ma carrière à l'AFD, j'ai été aussi responsable de la division qui s'occupe des relations avec les collectivités territoriales et à l'initiative de la création et de la montée en puissance de la FICOL, qui a été d'ailleurs célébrée hier au Sénat, et je me félicite que cet outil continue à prospérer, de même que le dispositif d'appui à l'action internationale des collectivités territoriales, la fameuse DECOL, que nous avons fait décoller il y a quelques années aussi, en lien avec CUF et dans le cadre de notre partenariat. Merci de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet qui est au cœur des préoccupations de l'agence comme opérateur de la politique d'aide publique au développement de la France et dans le cadre de la diplomatie volontairement féministe de l'État français dans son action internationale. Effectivement, au rythme actuel, il faudrait encore 300 ans pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 5, c'est-à-dire réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. C'est à peu près le même délai qu'il faudrait pour réduire l'écart de salaire entre moi et mon ex. Donc, on est bien. Alors, vous l'avez dit, l'Amérique latine, c'est ce que Alain Rouquier et Yves Saint-Jour, anciens ambassadeurs de France au Brésil successivement, disent, c'est que l'Amérique latine, c'est souvent un territoire de modernité, un territoire d'expérimentation de certains éléments de modernité, et on y trouvera effectivement du point de vue des politiques publiques de réduction des inégalités de genre, des politiques progressistes historiquement et puis progressistes dans ce que ça aborde, tant sur les lois sur l'avortement, les systèmes de soins territoriaux dont je reparlerai, les stratégies locales de prévention de la violence ou le droit des LGBTQIA+. Je vous avoue que je dois me manquer des lettres. Parfait, écoutez, quand j'ai besoin, je fais appel à un ami qui est à ma gauche. Donc. Alors cependant, et ça ne vous a pas échappé non plus, l'Amérique latine n'est pas en dehors du phénomène de backlash actuel. dans certaines géographies. Et j'ai envie de mettre en parallèle souvent le retour de populistes particulièrement agressifs en parallèle avec ce recul des droits des femmes. On a aussi des reculs qui sont inquiétants en droit comme dans les faits ou comme dans les moyens qui sont consacrés aux politiques publiques. Par exemple, l'Argentin Milei a annoncé son intention de supprimer la notion de féminicide du code pénal en qualifiant le féminisme de distorsion de l'égalité. Je crois que tout est dit. Ça nous rappelle une chose, et dans nos liens, les liens que la France tisse avec le monde, on doit s'y attacher, puisqu'on voit que le droit international est de plus en plus bafoué, c'est que les droits ne sont jamais définitivement acquis. Et à l'AFD, nous avons une conviction qui nous anime assez profondément dans la structure que prend notre action, c'est que les changements passent par l'ancrage territorial, c'est-à-dire par les réalités que les gens vivent au quotidien et par l'engagement citoyen de proximité. Les précédentes intervenantes l'ont rappelé, c'est dès 2018 que la France se joint à d'autres pays comme la Suède et le Canada pour adopter une diplomatie féministe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on affirme que l'égalité de genre, c'est une priorité de son action extérieure, que ce soit dans les relations diplomatiques, mais aussi dans les actions de coopération. Dans cette droite ligne, en 2019, l'AFD s'est déclarée agence féministe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on intègre la notion et l'objectif de diminution des inégalités de genre quasiment dans la totalité de nos interventions et de nos financements, même quand le sujet semble ne pas s'y prêter. Je pense que j'expliquerai par certains aspects comment est-ce que ça peut se passer. Du coup, en Amérique latine, bien entendu, et du point de vue de l'action de l'Agence française de développement, comme du point de vue de notre filiale de coopération technique, dont je salue la présence de certains représentants aujourd'hui, Expertise France, on a choisi de mettre au cœur de notre action ces sujets dans des dimensions très concrètes, c'est-à-dire dans des financements que nous avons octroyés à des acteurs locaux. Je vais vous donner quelques exemples. En Colombie, à Bogota, nous avons octroyé deux financements à la mairie de Bogota. Le financement des collectivités locales, c'est une des grandes spécialités de l'AFD en Amérique latine. Et la mairie de Bogota a mis en place un système distrital de cuidado. Ça veut dire que c'est un système qui sert à accompagner les femmes au plus près et à les accompagner dans leur autonomisation du point de vue des droits de santé reproductive, mais aussi d'accès à l'emploi et à la facilitation des démarches administratives. Ils ont créé dans la ville tout un système de lieux qui s'appelle les manzanas de cuidado et qui rassemble des services offerts aux femmes pour s'occuper des enfants pendant qu'elles suivent une formation professionnelle ou qu'elles engagent une démarche auprès des administrations qui sont rassemblées au même endroit pour leur faciliter la tâche. C'est aussi un endroit où elles peuvent tout simplement laver leur linge. Et quand elles lavent leur linge, eh bien, en même temps, elles peuvent faire des activités culturelles à leurs enfants tout en suivant une formation professionnelle ou en consultant un service de santé reproductif qui, là encore, se concentre sur ça. Un autre projet que nous soutenons au travers de notre filiale Expertise France, qui s'appelle Mujeres Echando Raíces. Alors je m'excuse auprès des latinophobes en disant que le titre n'est pas purement... c'est pas très joli en fait en espagnol, mais ça veut dire « les femmes qui créent des racines ». C'est un projet qui vise à accompagner les migrantes vénézuéliennes qui sont extrêmement nombreuses à avoir quitté ces 10 dernières années le Venezuela pour venir s'installer dans les pays limitrophes et en particulier en Colombie et en Équateur et qui ne sont pas rentrées, qui ont fait racine sur place et qui sont confrontées comme de très nombreux migrants dans le monde, hein, a des problématiques d'accès aux droits, d'accès au logement, d'accès à l'emploi et d'accès à une quantité de services. Le projet il vise à travailler avec les municipalités. Alors, c'est Cali en Colombie et c'est le département de Pichincha en Équateur et un certain nombre d'ONG, effectivement, pour améliorer leur ancrage local pour qu'elles puissent, sur place, élever leurs enfants, accéder à un emploi et donc à un revenu et stabiliser leur situation et éviter ainsi, pour elles comme pour leurs enfants, de tomber dans l'extrême pauvreté ou dans des principes de délinquance. On est très content de ce projet qui a été soutenu par une subvention du ministère des Affaires étrangères en 2023 et qui est une des dernières subventions que nous avons octroyées en Amérique latine, puisque vous avez rappelé que le contexte budgétaire ne nous épargne pas, et en particulier pour mon département. Quand je vous disais qu'on intègre parfois dans des projets qui semblent ne pas s'y adapter des éléments de diplomatie féministe, je vais vous donner un exemple. On travaille avec le gouvernement Sheinbaum au Mexique sur la transition énergétique, qui est un des grands axes de la politique actuelle du Mexique et renouvelé, puisque la précédente administration y était un petit peu moins sensible. Et dans le cadre de ce travail, qui quand même sert à travailler sur la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mexicain ou l'articulation entre l'EDF local et les investisseurs privés. On a quand même réussi à entrer dans le dialogue avec l'administration mexicaine le financement de projets pilotes qui visent dans les territoires à mettre en place un programme qui substitue finalement les modes de cuisson des communautés rurales et indigènes traditionnels, c'est-à-dire qui vont chercher du bois hein, et qui coupent la forêt, par des systèmes un petit peu plus modernes et accessibles. Voilà. Toutes ces expériences-là vous montrent que vous avez en Amérique latine des dynamiques et un territoire de dialogue important. Je ne saurais vous dire que l'Amérique latine, c'est aussi un dialogue de pair à pair avec les collectivités locales avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez autant apprendre d'eux que leur apprendre de vos expériences. Et je me félicite que, alors c'est pas en Amérique latine, mais ça aurait pu, que les collectivités locales françaises l'aient bien compris, puisque la FICOL, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelques années, soutenu le conseil départemental du 93 dans l'observatoire des violences faites aux femmes. Je crois qu'il y a eu dernièrement une visite d'étude, au cours de laquelle d'ailleurs la préfète de Pichincha est venue partager son expérience. Et donc cette espèce de début d'observatoire mondial des violences faites aux femmes basé sur cette expérience du conseil départemental 93 me paraît tout à fait intéressant à soutenir. Et puis je vous cite aussi parmi les 7 projets en cours actuellement soutenus par la FICOL en Amérique latine, et bien entendu vous êtes les bienvenus pour déposer des projets. Je vois la dame de Limoges qui a beaucoup d'appétence, et bien entendu Bordeaux va nous sortir une très jolie FICOL sur Lima. Mais vous avez aussi Nantes, Récifs qui ont développé ensemble un projet sur les smart cities qui est tout à fait intéressant, et me semble-t-il il y a une suite qui est donnée récemment, puisque j'ai dû signer un octroi il n'y a pas 3 jours. Voilà. Moi je suis très ouverte aux questions. Je suis tout à fait convaincue que la coopération décentralisée dans le cadre du dispositif français d'aide publique au développement a à la fois un rôle de plaidoyer de la mobilisation citoyenne en faveur de l'ouverture sur le monde et de la solidarité internationale, mais aussi de la lutte contre le changement climatique. J'ai une certaine tendance, un jour j'ai expliqué à mon père que le changement climatique c'est exactement comme le nuage de Tchernobyl. ça ne s'est pas arrêté à la frontière. Ça n'est pas parce que les Français, pour eux, feront le maximum d'efforts. Il faut bien sûr le faire, que le changement climatique s'arrêtera. Le changement climatique s'arrêtera parce que l'effort sera mondial et qu'on aidera aussi les États en voie de développement, ceux qui sont moins développés, à prendre une trajectoire décarbonée de développement. Le climat, c'est un sujet, comme la biodiversité, qui nous touche tous. La baisse des crédits de l'aide au développement est, de ce point de vue-là, inquiétante pour remplir ce qui fera le devenir de notre planète. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre intervention qui déjà trace un certain nombre d'enjeux et de perspectives tout à fait pertinentes de coopération. Alors évidemment, avant de passer à une première série de questions, quand on parle de panorama sur les enjeux de genre en Amérique latine, évidemment, on ne pouvait pas ne pas donner la parole aussi à des représentants de ce continent. Et je suis très heureuse de laisser la parole à Madame Gracie Tatiana Roquemero-Pero, qui est maire d'Aguachica en Colombie. Donc c'est une nouvelle maire, puisqu'elle est maire depuis la fin de l'année 2024. Et Aguachica, c'est une ville de plus de 80 000 habitants qui est située dans le département de César, dans le nord-est du pays. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous parler justement des politiques publiques qui favorisent l'égalité de genre dans sa collectivité. Donc elle s'exprimera en espagnol avec une traduction consécutive. Une petite présentation, juste le temps de... Ah oui, peut-être. Petite ajustement logistique sera plus facile pour elle pour évidemment la présentation.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gracie Roqueme, alcaldesa del municipio de Aguachica César.
Bonjour à tous, je m'appelle Gracie Roqueme et je suis la maire des Aguachica, César.
Es para mí un honor estar aquí con ustedes, con personas tan importantes, y venir a expresar acerca de mi municipio, acerca de cómo ha sido mi mandato en estos primeros 7 meses.
Vous attendez? Oui. Ok. Donc, et c'est un honneur pour moi d'être ici avec. Ok. C'est un honneur pour moi d'être ici, accompagné des personnes très importantes et pour parler de ma municipalité.
Quiero empezar con esta frase que dice: Aguachica con fuerza de mujer, el futuro se escribe con clave de igualdad.
Je vais commencer ma présentation avec cette phrase. Et depuis Aguachica, avec de la force des femmes, le futur est écrit.
Je vais essayer de traduire. Donc effectivement, elle souhaite commencer sa présentation avec cette phrase un peu clé. Donc depuis Aguachica, avec la force des femmes, l'avenir s'écrit avec les mots de l'égalité.
Gracias. Bueno, yo como les digo, soy alcaldesa del municipio. Fui el año elegida después de que murió el alcalde de cáncer. Era mi primo. Y fui elegida por Acción Popular, por democracia. Después de 277 años que tiene fundado el municipio, soy la primera mujer en mandat pour élection populaire.
Donc elle a été élue il y a quelques mois suite au décès du maire précédent d'un cancer et c'est la première femme élue maire dans sa ville depuis donc sa fondation il y a 270 ans.
Ha sido un desafío muy grande para mí porque me han denigrado desde campaña. Eran cuatro hombres y una sola mujer como candidatos para la alcaldía y los cuatro hombres se unieron para denigrar de mí, hablar mal de mi campaña. Y solamente se enfocaron, no hicieron programa de gobierno, sino que hicieron fue campaña hablando mal de una mujer.
Donc ce fut une campagne électorale difficile, hein, elle avait face à elle quatre candidats hommes qui en réalité n'ont pas développé de projet de programme électoral, hein. Leur principal objectif était de la dénigrer en tant que femme, hein. Ils se sont même unis contre elle en fait pour clairement la dénigrer dans le cadre de cette campagne.
Soy nacida de mi municipio, de Aguachica Cesar, lo amo con toda mi alma y soy convinciente de que mi municipio necesita muchas, muchas cosas para hacerse realidad por esa ciudad que yo he soñado, que sea en futuro desarrollo, que maneje ciudades inteligentes, que le dé la prioridad a esos niños jóvenes y adolescentes y estamos rescatando en estos momentos, estamos previniendo en estos momentos a esos jóvenes para que no prueben cosas en el cual lo lleve a mal camino.
Donc elle est native, hein, de cette ville, donc il lui tient beaucoup à cœur de s'engager pour sa ville et notamment je ne vais pas faire forcément une traduction très littérale, hein, je vais essayer de faire de mon mieux, ce n'est pas mon métier. Donc en fait, mais elle souhaite, voilà, elle considère que la question de la jeunesse est particulièrement importante pour justement qu'il ne s'engage pas dans un mauvais chemin et donc ça fait partie de ses priorités.
En esta presentación ustedes pueden ver en la primera imagen, eso es un exalcalde en 1995, en ese tiempo había mucha guerra en mi municipio, había muchos grupos armados y todos los días siempre habían asesinatos. Él cansado, ese alcalde, hizo una consulta popular por la paz, nosotros somos modelo de paz, en el 1995.
Donc vous pouvez voir sur la photo à gauche, en bas, en fait c'est une photo qui représente le maire de l'époque. Donc en 1995, en fait, dans sa ville, le maire a fait une grande consultation populaire pour la paix. C'est une ville qui a été particulièrement engagée sur ce processus de paix.
Ha sido el único alcalde que por medio de esta consulta pudo réaliser coopération internationale con otros países por medio de la consulta popular por la paz.
Et à travers, en fait, ça a été le seul maire de Colombie à réaliser à travers cette consultation pour la paix une coopération internationale donc autour de ces sujets.
Y hoy en día yo como alcaldesa, la primera mujer, también quiero que también se hagan inversión de coopération internationale, pero que sea la primera mujer en mi municipio.
Donc elle aussi, du coup, elle veut aussi s'engager sur cette voie. Elle veut être la première femme à engager sa ville dans une coopération internationale.
Comme je l'ai dit antérieurement, ici, la idée est de transformer les défis en opportunités. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai reçu beaucoup d'insultes, d'attaques personnelles. Et paradoxalement, de personnes de l'administration, concejales. Salen en redes sociales a denigrar de mí, a decirme inepta, a decirme bruta y que no soy capaz de llevar a cabo, de organizar mi municipio.
Donc comme vous le pouvez le voir sur la présentation, l'objectif c'est bien de transformer des défis en opportunités. Donc elle revient sur vraiment le contexte de dénigrement dont elle fait l'objet, hein, notamment y compris même à l'intérieur de l'administration en fait. Il y a même des propos sur les réseaux sociaux de personnes de l'administration qui en fait utilisent des qualificatifs habituels contre les femmes en politique, la question de l'inaptitude, voilà.
Pero aquí estoy yo que creo firmemente en esas palabras de Eleanor Roosevelt, en donde ella dijo: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
Mais elle croit très fermement en cette citation d'Eleanor Roosevelt que vous avez à l'écran. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement.
Como mujer y como líder pública, asumo el compromiso de construir políticas que permitan la participación plena de las mujeres en la vida económica, social y política. Y no se trata solamente de justicia social, sino de una condición esencial para el desarrollo sostenible y la paz.
Donc, comme femme et comme leader politique, elle assume pleinement l'engagement de construire des politiques qui permettent la participation pleine des femmes dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie politique. Et c'est pas simplement une question de justice sociale, hein, c'est une question essentielle pour le développement durable et pour la paix. Qui, évidemment, dans le contexte colombien, on sait combien aussi c'est important. Ça, c'est moi qui l'ajoute.
voilà. Y como dijo Malala Yousafzai, no podemos tener éxito cuando la mitad de nosotras se queda atrás.
Y elle reprend une phrase là aussi d'une personne très inspirante, Malala Yousafzai, qui a dit « Nous ne pouvons pas avoir du succès quand la moitié d'entre nous reste sur le bord de la route ».
Desde el inicio de mi gestión, yo he venido trabajando con las mujeres. De hecho, en mi municipio hay una casa-taller, se llama. Esta casa-taller se abrió en el año 2016-2019 y es enfocada a todas las mujeres madres solteras de hogar, o también pueden ser madres adolescentes o mujeres adolescentes que quieran construir, que quieran salir adelante. Y es emprendimiento en artesanía, gastronomía, es emprendimiento en modistería y proyectos de productos económicos.
Donc elle évoque un lieu hein, qui existe dans sa ville, donc la maison atelier, qui est en fait un espace qui accueille des mères célibataires, des femmes seules avec leur enfant, également aussi des mères adolescentes. C'est aussi un sujet qu'on retrouve souvent en Amérique latine. Et donc c'est un lieu où elles peuvent être accompagnées, notamment dans leur autonomisation économique, avec des projets autour de l'entrepreneuriat, autour de l'artisanat, autour de la mode, notamment.
Esta casa taller se cerró en pandemia y con la administración que era un hombre, él no la abrió más, no le dio importancia, es una persona machista y dijo que ahí solamente iban mujeres pobres y mujeres que no tenían sentido para la sociedad darles este emprendimiento y él la cerró, pero cuando yo llegué yo la reactivé y en estos momentos está funcionando.
Donc c'est un lieu qui existait depuis pas mal d'années hein, et qui s'est fermé pendant le Covid et l'ancien maire en fait ne l'a pas réouvert après la pandémie en considérant que c'était pas un lieu voilà, c'était un lieu pour des femmes pauvres, que c'était un lieu pour des femmes qui n'avaient pas vraiment finalement d'importance dans la vie de la ville. Et donc elle, ça a été une des premières, voilà, une des actions qu'elle a menées. Elle a réouvert ce lieu.
Gracias a este esfuerzo, muchas mujeres pasaron de la dependencia económica a generar ingresos para su vivienda y así crear empleo para otras mujeres. Yo ahorita quiero mostrarles este video, es de Paola Arana. Una mujer que empezó en la casa taller y empezó como madre soltera, como una mujer de verdad bastante necesitada y después se convirtió en tutora y hoy en día tiene su propio emprendimiento gracias a esta casa taller.
Donc dans ce lieu en fait les femmes peuvent aussi passer d'une situation de dépendance économique à une situation de créer aussi des ressources en fait, d'être vraiment génératrice de ressources parce qu'elles créent leur entreprise. On suppose parfois même qu'elles peuvent générer des emplois. Et donc là, vous avez une petite vidéo qui évoque c'est notamment quelques femmes qui ont pu passer par cet espace et notamment à travers l'entrepreneuriat, en fait, finalement, développer leur activité et avoir une autonomie économique.
Esta es la casa taller. Voilà. Y esta es Paola Arana, la mujer emprendedora.
Voilà, donc c'est l'exemple de Paola. Voilà, qui a vraiment bien réussi grâce à son passage dans cet espace à générer de l'emploi.
Esos bolsos, ella misma los hace. De hecho, en el stand colombiano hay varios de ellos y varios collares y varias cosas. Sí, señora, yo traje ejemplo de eso.
Mais vous pourrez d'ailleurs voir des exemples de son travail au stand de la Colombie puisqu'elle est venue avec quelques exemples de ce qu'elle fait dans son atelier.
Ese es su emprendimiento.
Là, on voit son entreprise, en fait, hein, qu'elle a créée.
Y esas son las clases que dictamos. Esa sí es su... Et deux personnes más.
Donc en fait, il y a elle qui a trouvé son, qui a créé son emploi, et là, elle emploie deux personnes maintenant dans son atelier.